11h midi, c'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
Bien le bonjour mes camarades, Maître Serran est ravi de vous retrouver pour autant que faire se peut tenter de répondre à vos questions de droit. Mais avant tout, permettez-moi mon cher Philippe de vous faire part d'un sujet qui tracasse Maître Serran et qui doit probablement tracasser les conducteurs que nous sommes. J'apprends que ce pays qu'est l'Arabie Saoudite, qui est le seul pays au monde à avoir adopté une règle qui pour ma part était une règle, de bon sens, hein, puisque les femmes n'avaient pas le droit de conduire. Eh bien, ce pays qui ne cessera manifestement jamais de me décevoir. Ce pays, mon cher Philippe, tenez-vous bien. Ce pays, par la voix de son prince héritier Mohammed Ben Salman, a décidé de permettre aux femmes de conduire, mon pote. Tu le crois, ça? Hein? Non, mais autant leur donner un flingue. Bon. Moi, dans un premier temps, j'ai pris ça à la rigolade. Je me suis dit, tiens, ce prince héritier est plein d'humour. C'est un blagueur. Eh ben non, mon pote. Non, non, la décision est très sérieuse. Tout fout le camp, mon ami, tout fout le camp. L'entrée en vigueur de ce texte, décret royal, imprévu pour le mois de juin 2018. Le mec, il sait pas dans quoi il s'est engagé. Dès le mois de juin, fini la tranquillité dans ce pays où avant tu pouvais traverser tranquille sans te faire percuter. Le trajet domicile-travail pour un homme saoudien va se multiplier par 5. Bah oui, on a tous en tête une situation où tu te retrouves derrière une femme au volant qui prend à la lettre, hein, l'expression selon laquelle la voiture est le prolongement du domicile. À la lettre, je te dis sinon, comment peux-tu expliquer qu'une femme arrêtée au feu rouge pose spontanément sur le siège passager sa panoplie de maquillage Barbie, parfois même des broches à cheveux, commence par entamer une cérémonie de ravalement, hop, rouge à lèvres, petit coup de crayon autour des yeux et parfois même des coups de peigne. À la fin, c'est toujours pareil, mon cher Philippe, le feu passe au vert, toi t'es derrière, mademoiselle maquillage, tu t'impatientes. Elle ne bouge pas, alors tu klaxonnes, elle t'entend pas, elle est trop concentrée à se faire belle, t'as juste envie, à ce moment précis, de passer la première, de la percuter, mais alors juste ce qu'il faut pour qu'elle s'enfonce son crayon dans l'œil. Mais comme t'es un bolos, il suffit que cette femme te sourie et tu lui pardonnes tout. Quand je pense qu'on nous dit que la femme est le sexe faible, alors que leur force, c'est justement de se présenter comme étant le sexe faible, tout ça, mon cher Philippe, me navre. Allez, à vous de prendre la parole. Faites le 01 53 48 3000. Posez vos questions. Émission sous le contrôle du chef d'orchestre, monsieur Philippe Robichon. Beurre FM, c'est tout droit. C'est parti.
Bien, Maître Serran, un lot de clichés, lieux communs, voilà.
Non mais
vous ne faites que rabâcher des vieilles histoires.
C'est ce qu'on croit.
Alors qu'on sait que les femmes sur la route, d'abord, conduisent bien mieux que les hommes et qu'elles ont beaucoup moins d'accidents que les hommes. Donc c'est n'importe quoi.
Mais on est d'accord. Mais vu la vitesse à laquelle elles roulent, comment est-ce que vous voulez avoir un accident à cette vitesse-là?
Clichés, lieux communs.
Mais c'est normal parce que vous êtes un cycliste. Vous êtes cycliste. Mais tous ceux, tous les hommes qui ont le permis, qui utilisent leur véhicule au quotidien, vous diront que j'ai raison. C'est tout.
Et à partir d'un certain niveau de débat, Maître Serran, je ne préfère ne pas l'élever. Je vous laisse avec vos certitudes. Tiens, Maître Serran, nous allons parler de l'administration et de comment agir en justice contre l'administration. On a répété plusieurs fois dans cette émission que quand on poursuivait l'administration, il fallait le faire devant le tribunal administratif. Déjà, quand on parle d'administration, on parle de qui ?
Par exemple, un établissement scolaire, des décisions prises par la mairie, par exemple, des décisions prises par les services préfectoraux. Pourquoi ? On en avait parlé, il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'entends toujours. Alors, il y a manifestement des auditeurs qui m'écoutent pas. Hein, vous le croyez ça ? C'est-à-dire que ça peut arriver.
Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça sert à rien.
Oui, mais c'est ça qui est assez surprenant, c'est-à-dire que les citoyens font une demande à un service administratif, quel que soit le service. Et puis, quand cette administration, alors soit leur dit non, soit lorsque l'administration ne répond pas, on a des personnes d'abord qui considèrent que si l'administration me dit non, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc c'est déjà quand même assez surprenant. Il faut savoir que les décisions rendues par une autorité administrative, quelle que soit cette autorité administrative, sont des décisions, et heureusement, qui peuvent faire l'objet d'une contestation, d'un contentieux. Ensuite, lorsqu'on explique aux intéressés qu'il y a une juridiction qui s'appelle le tribunal administratif, les intéressés sont encore plus suspicieux. C'est-à-dire qu'encore une fois, administration, tribunal administratif, c'est entre guillemets la même famille, tout le monde se connaît, donc même si je vais devant un tribunal administratif, est-ce que le juge administratif va donner tort à l'administration? Donc là aussi, il y a vraiment un climat de suspicion. Mais avant même d'aller devant un tribunal administratif, il faut que les auditeurs comprennent qu'on a parfois ce qui s'appelle des recours préalable, c'est-à-dire qu'avant même...
C'est-à-dire qu'on n'y va pas en première intention, c'est
voilà,
ça que vous voulez en dire.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que vous faites une demande à l'administration, la réponse est négative, ou alors au bout de deux mois vous n'avez pas de réponse, on appelle ça un refus implicite. Spontanément, on peut se dire, bon, ben, éventuellement, si je me sens un peu courageux, je vais aller devant le tribunal administratif. Mais parfois, il faut pas aller devant le tribunal administratif. C'est-à-dire que vous avez parfois un recours préalable qui est obligatoire. Concrètement, si je vais devant un tribunal administratif alors que j'aurais dû d'abord revenir devant l'administration, mon recours sera, en droit, on dit, irrecevable. C'est-à-dire que le tribunal va vous dire, ben non, cher monsieur, chère madame, fallait d'abord revenir auprès
donc,
de l'administration.
Donc, la procédure, c'est donc pas de réponse. Donc on pense que s'il n'y a pas de réponse, ça veut dire qu'il y a un refus, on va dire.
S'il n'y a pas de réponse, alors c'est pour ça que c'est quand même important.
Au bout de deux mois, pas de réponse, c'est un refus.
Voilà, c'est pour ça. Alors je ne me fais pas l'ambassadeur de la lettre recommandée avec AR, mais c'est pour l'instant la seule possibilité pour calculer ce fameux délai de deux
donc,
mois.
Donc on a deux mois. Alors après, on a le premier recours, c'est donc de revenir vers l'administration.
Voilà, on appelle ça tout simplement un recours gracieux.
D'accord.
Et là aussi, c'est vrai que quand on évoque le recours gracieux avec les auditeurs, très souvent on nous dit, écoutez, a priori ça sert à rien si l'administration a dit non une fois, elle dira non une deuxième fois. C'est pas tout à fait faux, mais en même temps, il n'en demeure pas moins que compte tenu de la quantité de travail pour ces administrations, il arrive parfois qu'une réponse un peu rapide soit apportée. Donc, il est bon aussi de revenir devant l'autorité qui vous a refusé dans un premier temps pour essayer peut-être d'accentuer tel ou tel point et lui demander de revenir sur sa décision.
Mais attendez, est-ce que vous voulez dire qu'il est bon de revenir ou que la procédure veut que ce soit obligatoire d'y revenir avant de saisir le tribunal administratif?
D'abord, pour certaines procédures, avant d'aller devant un tribunal administratif, c'est obligatoire. Voilà. Donc, vous avez raison de me faire préciser ça. Pour certaines procédures, c'est obligatoire. Il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut d'abord revenir...
Donc, deux refus.
Voilà. Il faut d'abord revenir devant l'intéressé qui a rendu la décision. Si, effectivement, il maintient son refus, dans ce cas-là, vous pouvez vous autoriser à dire, bon, on entre dans ce qui s'appelle un contentieux. Mais, en dehors de ce recours gracieux, donc encore une fois, le recours gracieux, c'est je reviens devant l'autorité qui m'a déjà refusé, je peux en parallèle faire ce qui s'appelle un recours hiérarchique. C'est-à-dire que je vais m'adresser, entre guillemets, au patron de l'administration. Vous êtes vous demandez quelque chose à un établissement scolaire, vous avez une réponse négative ou on ne vous répond pas. Le recours gracieux, c'est que je reviens devant le chef d'établissement. Le recours hiérarchique, je vais m'adresser directement au rectorat. Donc, je vais m'adresser au patron de l'administration. Ces deux recours peuvent être faits parallèlement. Vous n'êtes pas obligé d'attendre une nouvelle réponse de ce premier recours gracieux pour aller devant, entre guillemets, le patron de l'administration. Vous pouvez le faire en parallèle. Et si, même chose dans le cadre d'un recours hiérarchique, pas de réponse au bout de deux mois ou alors si on vous refuse, à partir de ce moment-là, le boulevard du recours contentieux, cette fois-ci, donc saisir un tribunal administratif, vous sera autorisé, vous sera permis.
Bien. Est-ce qu'il y a besoin d'un avocat?
Alors, tout ce qui concerne les procédures de cette nature, l'avocat n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, souvent, lorsqu'on vient nous voir et lorsque les personnes ont eu quand même l'idée de saisir la première administration qui vous a refusé dans le cadre d'un recours gracieux, c'est vrai que les personnes se disent, bon, un recours gracieux, je vais peut-être pas faire appel à un avocat pour des mille et une raisons, et notamment pour des raisons financières.
Parce que c'est plus gracieux.
Parce que c'est plus gracieux. C'est bien amené. Vous êtes en forme aujourd'hui. Mais sachez quand même que il est, encore une fois, pas obligatoire, mais je le dis très souvent, mais utile de faire appel à un avocat, même dans le cadre d'un recours gracieux, parce que la manière dont l'avocat va amener le recours, la manière dont il va expliquer les choses à l'administration, peut-être vous éviter plus tard de faire et un recours hiérarchique, voire même un recours contentieux. Donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même fortement conseillé en la matière.
Quelles sont les conditions de saisine donc du tribunal administratif? On a combien de temps pour le faire? Puisque là encore, on parlait de délai, mais ça c'est très important.
Si l'administration à qui vous avez fait une demande dans les 2 mois ne vous répond pas, à partir de l'expiration de ce délai de 2 mois, vous avez encore 2 mois pour saisir le tribunal administratif. Alors, faut faire attention parce que ce sont des délais couperets. C'est-à-dire que si vous le faites 2 mois et 1 jour, c'est terminé. Le recours est irrecevable. Donc, et c'est pour ça, lorsque, et je le redis, je parle souvent du recommandé avec AR, c'est indispensable. C'est ce qui va vous permettre de comptabiliser vos délais. Et je le redis, le tribunal administratif se saisit dans un délai déterminé et vous le faites 24 heures après, c'est pas la peine d'aller plus loin. D'ailleurs, le tribunal va vous répondre très rapidement. Vous allez recevoir une décision qui dit que votre recours est irrecevable. Donc, c'est vraiment très pointu en la matière. Les personnes ne s'en rendent pas compte. On vient parfois nous voir X mois après le rendu d'une décision. Résultat, il faut tout reprendre à zéro. Si la personne donc veut éventuellement, demain après-demain, saisir le tribunal administratif, elle sera obligée de tout recommencer.
Ce sont des procédures très écrites, hein, finalement, les
sont des procédures essentiellement écrites. D'ailleurs, il faut savoir que souvent on nous pose la question de dire est-ce que vous serez présent à l'audience. Il faut savoir que dans la mesure où ce sont des procédures écrites et exclusivement écrites, même si l'avocat se présente devant le juge du tribunal administratif, il ne sera pas autorisé à plaider comme on peut plaider en matière pénale. C'est-à-dire qu'on a parfois des magistrats qui vous rappellent gentiment pour certains et de manière un peu plus pénible pour d'autres, qui vous rappellent que c'est une procédure écrite, que tout ce que vous êtes en train de dire, c'est bis repetita. C'est-à-dire que le juge l'a déjà examiné dans le recours que vous avez formulé. Donc, il n'y a pas besoin, en tout cas ce n'est pas obligatoire, que le client ou l'avocat se présente physiquement devant le magistrat. Alors c'est vrai qu'on a parfois des clients qui ont du mal à comprendre ça, et en particulier lorsque vous obtenez une réponse négative, parce que ça arrive parfois, le client vous regarde un peu de travers en disant « bah oui, mais si vous étiez présenté, peut-être que... » Je peux comprendre ce raisonnement, mais on tente de leur expliquer que ça n'aurait rien changé. Je le redis, tout ce que peut faire l'avocat sur place, c'est répéter ce qui a déjà été écrit, lu et examiné déjà au préalable par le magistrat.
Donc, ça ne sert à rien d'aller à l'audience.
Non. Après, je le redis, moi, je peux comprendre qu'un client qui vous paye, il veut que physiquement vous soyez devant le tribunal administratif. Ça, j'entends, je le comprends. Mais encore une fois, il faut aussi être raisonnable, c'est-à-dire que dans ce type de recours, aller sur place, c'est... Alors pardon, parce que le terme n'est peut-être pas bien choisi, mais c'est juste une perte de temps. Je le redis, c'est une procédure exclusivement écrite. Si l'avocat a fait le nécessaire par écrit, il n'a pas besoin d'être physiquement présent, et encore moins notre client.
Et quel est le délai pour le jugement ? Alors, on a vu qu'il y avait 2 mois pour saisir, et après, le délai du jugement, c'est de l'instruction de l'affaire, ça dure combien de temps?
Alors, c'est complètement aléatoire, hein. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec le tribunal administratif, c'est lorsque vous saisissez ce tribunal, vous recevez un petit courrier qui justifie que vous avez bien saisi la juridiction, et puis vous recevez un code qui vous permet d'aller sur un site qui s'appelle Sagas, et vous avez un code personnalisé, ça vous permet de voir...
On a votre affaire.
Voilà, c'est exactement ça. Donc, vraiment, c'est intéressant d'avoir ça. Il faut savoir encore une fois que en matière, je parle pas des procédures d'urgence, hein, mais un dossier classique, un tribunal administratif, alors ce que je vais dire encore une fois n'est pas très scientifique parce que ça va dépendre d'une juridiction à une autre, mais il faut compter quand ça va vite, s'il y a 1 an d'instruction, c'est un délai qui est normal. Et parfois ça va au-delà. Donc ce sont des procédures qui sont quand même relativement longues, mais on va peut-être pas l'évoquer ici, mais on a parfois, même en matière administrative, besoin d'une décision urgente, il y a des procédures.
Il y a des référés.
Particulières, voilà, des référés liberté, des référés suspension. Donc on a aussi des procédures particulières. Mais ça, c'est un autre chapitre qu'on évoquera peut-être un jour au sein de cette radio.
Merci, Maître Serran. S'il vous plaît, on évoquera ça dans un instant. Maître Serran répond à vos questions. 01 53 48 3000. Toutes vos questions au standard de C'est tout droit. 01 53 48 3000.
11h midi. C'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. 11h midi. C'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
Allez, Maître Serran est dans les starting blocks, il a bu son chocolat. Et 01 53 48 3000, c'est Latifa, Maître Serran, qui vous appelle d'Épinay. Bienvenue Latifa.
Oui, bonjour, merci. Bonjour Philippe, bonjour maître.
Bonjour Latifa.
Bonjour. Donc voilà, je voulais vous poser une question concernant un ami à moi qui a obtenu sa première carte de séjour. Et après 3 mois, son patron a vendu la boucherie. Et donc, mon ami, il est parti travailler ailleurs. Il a refait le contrat et tout et tout. Et là, ils l'ont appelé pour refaire la carte, voilà. Et donc, là, il ne sait pas vraiment, on lui a envoyé tout de suite, il ne sait pas s'il doit refaire le dossier comme à la première demande, avec son nouveau patron, bien sûr.
Oui, c'est-à-dire que, enfin, là, vous êtes en train de me dire qu'ils l'ont appelé pour un renouvellement.
Oui, bien sûr.
Bon, alors, il est bon quand même d'informer... les autorités préfectorales de ce changement de situation.
Oui,
on a le droit, voilà. On vous interdit pas, voilà. On vous interdit pas de changer de patron et heureusement. Donc, si il a eu son premier titre avec un patron X et que ce patron X ne travaille plus avec lui ou a fermé, enfin peu importe, eh ben, il revient avec son nouveau contrat, avec son, son patron Y. Et à partir du moment où il en justifie, l'administration va pas le regarder de travers. Donc, parce que c'est, encore une fois, c'est pas de sa faute si le contrat ne s'est pas maintenu avec le premier patron. Donc les autorités préfectorales sont parfois compliquées, mais là en la matière, il n'y a aucune raison qu'il lui cherche des poux dans la tête. Donc il justifiera simplement de son changement de patron et puis on lui renouvellera son titre. Sauf si évidemment il y a autre chose, mais si la question ne concerne que le changement d'activité, non, il n'y aura pas de difficulté pour votre ami.
Donc il n'a pas changé d'emploi, mais il a changé l'employeur.
Oui, j'entends bien. Non, mais il n'y a pas de difficulté. Voilà. Après, voilà, à partir du moment, ce qui est important, encore une fois, que l'administration demande qu'il y ait un contrat de travail, je l'entends, je le comprends et c'est normal. Mm-hmm. Ensuite, on ne vous dit pas, il y a une obligation de rester avec le premier employeur pendant X temps. Les aléas économiques font que il y a des sociétés qui se créent et d'autres qui disparaissent. On change parfois de patron, encore une fois c'est ça, c'est la vie économique et la vie professionnelle, donc qui se tranquillise, qui viennent avec son nouveau contrat, on va pas le regarder de travers, il n'y a pas de difficulté.
Mais ils vont pas demander à son nouveau patron l'autorisation de travail, puis payer pour lui, comme à la première demande?
Si, ils peuvent, encore une fois, ils peuvent faire ce genre de démarche, mais la toute première démarche de la part de votre ami, c'est au moins de venir avec son petit contrat. C'est-à-dire que sinon, l'administration ne connaîtra pas les coordonnées de l'employeur, et donc ne pourra même pas être à même de demander quoi que ce soit. Il a été, encore une fois... Ouais.
Pardon, il a son contrat, son nouveau contrat bien sûr, il a ses fiches de paye, mais on lui a demandé de ramener un CERFA. Mon Dieu, c'est pas le...
Oui, c'est le, encore une fois, c'est le document qui est rempli par le patron pour dire, ben voilà, pour saisir une administration qui s'appelle la directe, pour dire, voilà, moi je suis employé monsieur XY. Mais ce document est à remplir par l'employeur, donc par le patron, ou généralement c'est le service de comptabilité qui remplit ça, et que monsieur, voilà, et monsieur donc va présenter ce document. Mais encore une fois, juste pour vous rassurer, c'est-à-dire que il n'y a rien de suspect dans le comportement de votre ami. Ça peut arriver de changer de patron. Il y a ce petit formulaire qui sera à remplir par la société et que votre ami, encore une fois, vienne avec son contrat et avec ce document. Et on va pas, encore une fois, lui chercher des poux dans la tête. Enfin, sauf, alors pardon, je vais évoquer des trucs qui, a priori, ne le concernent pas, mais sauf si on me dit que son nouveau patron a pour habitude d'employer X personnes pour ensuite ne pas renouveler les contrats, c'est-à-dire voyez une sorte de pseudo ou de faux employeur. Mais si c'est un boulot, voilà, si c'est une société sérieuse et si c'est contrat de travail, bon ben voilà, donc il y a aucune raison que les autorités préfectorales, Latifa, le regardent de travers en disant il est bizarre ce type, il change de patron. C'est la vie économique
donc,
qui veut ça.
Procès, il n'y a pas de procès à payer vis-à-vis de son nouveau patron, parce que ce qu'il y a...
Bah si, mais il y a des frais qui seront... Non, mais ensuite, les frais qui sont à régler de la part du patron... Alors, oui. Normalement, c'est le patron qui les paye, voilà. Mais je vois, j'allais dire très régulièrement, c'est peut-être exagéré, mais je vois parfois... Oui. Des patrons qui disent bon ok moi je suis prêt à employer monsieur ou madame X et les frais qui doivent être réglés entre guillemets on demande aux salariés de les régler ou alors de rembourser voilà ou de rembourser le patron. Bon, vous savez, c'est terrible parce que je peux imaginer que le pauvre salarié, c'est quoi sa réponse? S'il dit bah non, c'est hors de question, eh ben au revoir et puis voilà, il y aura pas de contrat. Et si s'il veut conserver sa place et ce contrat, c'est vrai que parfois ils sont dans une position de, on pourrait presque parler d'abus de faiblesse, c'est-à-dire qu'il est pas en position de force pour discuter avec le patron et dire bah non, mais moi je rembourse rien. Après voilà, j'ai pas de bonne solution parce que celui qui veut être entre guillemets dans les clous, il peut dire au patron mais attendez les frais vous incombent. Et ben le patron peut dire bah oui les frais m'incombent alors au revoir camarade. Mais voilà ça c'est malheureusement la TIFA c'est la nature humaine c'est pas spécifique à ce dossier. Il y a toujours une différence et là en la matière entre le patron qui a quand même un pouvoir sur le salarié et le salarié qui très souvent doit subir. Donc c'est pas légal mais on voit ça assez régulièrement.
Voilà Latifa, merci pour votre appel. Sofiane est à Saint-Denis, bienvenue Sofiane. Sofiane, oui, voilà, Maître Serran vous écoute Sofiane.
Oui, je vous appelle pour un dossier de regroupement familial.
Oui,
oui, allez-y.
J'ai reçu un refus pour un motif qui n'existe même pas et tout, donc j'ai dû faire un recours.
Ouais, alors le motif qui n'existe pas, c'est quoi?
Bah, comme ma femme elle est déjà sur le territoire français et qu'elle avait déjà sollicité un titre de séjour étudiante, alors que c'est pas le cas, elle a terminé ses études, donc on n'a pas du tout sollicité ce genre de titre.
D'accord. Et elle est sur le territoire français?
Oui, elle est sur le territoire
français. Ah, donc tout n'est pas faux?
Tout n'est pas faux, mais après leur logique à eux, qui est faux.
D'accord, mais elle est bien sur le territoire français?
Oui, elle est sur le territoire français.
Non, alors, je vais vous dire, je vous taquine à peine, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que il arrive, hein, évidemment, que parfois l'administration dise tout et n'importe quoi. Et puis, bon, c'est comme ça, et on peut effectivement contester. Mais il arrive parfois que soit l'auditeur, soit le client qui vient voir au cabinet, ne donne pas tous les détails. C'est-à-dire que là, vous me dites, a priori, l'argument tient pas la route parce qu'elle aurait sollicité un titre d'étudiant. Bon, ça, c'est peut-être faux, mais elle est bien sur le territoire français. Là, il n'y a pas de doute.
Oui.
D'accord. Donc, vous avez contesté?
Oui, on a contesté, donc là ça va faire 2 mois, ils n'ont pas répondu, je sais pas ce qu'on va déposer directement au niveau de tribunal administratif.
Ouais, alors dans votre contestation, vous leur répondez sur quoi? C'est-à-dire vous leur dites quoi? Madame n'était pas étudiante?
Voilà, on croit qu'on a déjà, parce que c'est eux, ils nous ont demandé de déposer directement un dossier au niveau de la préfecture en tant que changement de statut. Et quoi, les gens des dépôts, nous ont demandé...
Alors, excusez-moi. Demande de changement de statut, c'est-à-dire, donc avant, madame, elle avait quoi comme statut?
Étudiant.
Ben, vous venez de me dire qu'il se trompe et qu'elle n'était pas étudiante.
À un moment donné, quand on s'est marié et tout, donc elle a bien demandé ce statut-là, on a changé de statut, on a fait un changement de statut au niveau de...
Alors, vous... oui. Sofiane?
Et au niveau de l'OFI, donc ils nous ont donné un récépissé, mais le dossier qu'on a déposé, c'était pas un dossier de renouvellement.
D'accord.
C'était un dossier pour demander le changement de statut. Donc du coup, et quand le dossier de regroupement familial est arrivé au niveau de la préfecture, eux, ils ont pris une décision qu'en quoi elle est déjà là, elle a un titre de séjour, elle a besoin d'avoir le titre de VPU de famille. Alors que nous, on n'a même pas sollicité ce titre-là.
Alors, je suis désolé, j'ai du mal un peu à comprendre ce que vous me dites. On est d'accord. Madame avait d'abord un statut d'étudiant. Initialement.
Voilà. Initialement.
D'accord. Ensuite, il y a eu un mariage.
Voilà.
D'accord.
On a mis fille et tout ici, donc
d'accord.
Elle a terminé ses études.
Donc elle a terminé ses études. Lorsqu'elle a terminé ses études, donc elle termine ses études et elle demande un changement de statut, ou alors elle termine ses études et puis direct vous êtes dans le cadre du regroupement familial.
terminé ses études, donc on a directement sollicité le changement. On voulait faire le regroupement, on nous a demandé de faire directement à la préfecture. C'est pour ça qu'on est parti à la préfecture.
Oui.
Voilà. Donc en plus, elle était toujours en règle, on n'était pas resté en situation régulière.
Ouais.
Elle avait toujours un RCPC en attendant.
D'accord.
Elle a terminé en 2015, donc nous, début 2016, on a sollicité le changement.
Bon. Le changement vous a été accordé ou pas?
Justement, après, ils ont dit que nous, on n'avait pas le droit à ce changement-là. Il fallait passer par le regroupement. Donc, en attendant, ils nous ont fait un RCPC.
D'accord. Donc, RCPC.
Ils ont demandé de faire le regroupement
sur place.
Ouais. Donc, on a déposé le dossier. On a attendu un an après. Ils nous disent que non, elle n'a pas besoin de ça vu qu'elle a un titre de séjour étudiante. Alors qu'on n'a pas. Pour eux, ma femme, elle a un titre.
D'accord. C'est-à-dire que pour l'administration, votre femme, voilà, donc je comprends. Donc, elle a un titre de séjour étudiant, mais en fait, elle n'a pas du tout ce titre-là.
Voilà. Alors que quand on a déposé le premier dossier, on n'a même pas déposé né de certificat scolaire itinéraire.
D'accord.
C'était pas le cas.
Donc là, le recours que vous avez fait, vous avez parlé d'un recours, c'est quel type de recours?
Ben, on a fait le recours gracieux au niveau de... J'ai fait les deux presque les mêmes jours pour le
directeur
et le ministère.
Voilà. Et hiérarchique.
Oui.
D'accord. Ça fait combien de temps, donc, tout ça?
Là, ça fait 2 mois. Là, ils l'ont reçu, celui de la préfecture, l'ont reçu le 25 juillet et l'autre le 26 juillet au ministère.
Bon, bah alors dans ce cas-là, monsieur, si vous êtes dans un délai de 2 mois, donc vous avez la possibilité de saisir le tribunal administratif, donc dans les 2 mois de l'absence de réponse. C'est-à-dire que si on vous répond pas, on appelle ça un refus implicite. Donc vous allez calculer à partir du jour où ça a été réceptionné par l'administration, donc le recours gracieux. Recours hiérarchique, mais si vous avez zéro retour de leur part, un écrit, ou s'ils ont gardé le silence pendant 2 mois, à charge pour vous, monsieur, donc de contester cette décision devant le tribunal administratif.
Mais moi, je conteste la décision de non-réponse au recours ou la première décision?
Oui, non, mais... Dans le cadre, parce que si vous voilà, je comprends votre raisonnement, mais si vous dites je conteste la non-réponse, c'est-à-dire si vous dites au tribunal ah bah attends, ils m'ont pas répondu, ouais c'est un peu faible. Donc non, il va falloir tout reprendre, c'est-à-dire que vous allez vous baser sur la première décision donc qui vous a refusé, donc avec le motif qui est invoqué, vous expliquerez. Tout ça par écrit, hein. On l'a dit tout à l'heure en introduction, hein, devant un tribunal administratif, tout ça se fait par écrit. Vous expliquerez ensuite au tribunal administratif donc que vous avez formalisé un recours et que dans le cadre de ce recours, vous avez eu zéro retour de leur part. Mais ne vous contentez pas juste de dire je vais devant le tribunal parce que le préfet, parce que le ministère ne me répond pas. Il faut que le tribunal ait tous les détails du dossier et de l'affaire.
D'accord.
Vous faites attention à ce fameux délai, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des délais couperets. Voilà, ça veut dire que si le vous loupez de 24 heures ou même que de quelques heures le délai, là c'est terminé. Après c'est injouable, c'est irrecevable.
Mais à partir de là, donc à partir des 2 mois d'attente pour le recours, j'ai 2 mois à faire ça.
Voilà. À partir du moment où ça a été réceptionné, donc vous l'avez fait en recommandé AR, j'imagine.
Oui.
Bon, donc à partir du moment où ça a été réceptionné, vous calculez le délai de 2 mois. Si 2 mois après la réception du courrier, il n'y a pas de retour, vous avez 2 mois pour saisir le tribunal.
Donc après 2 mois, donc en
réalité, oui, voilà.
À partir du premier après la réception, j'ai 4 mois pour faire le recours, c'est ça.
C'est-à-dire que vous les saisissez, eux ils ont 2 mois pour répondre. S'ils répondent pas, vous avez encore 2 mois pour saisir le tribunal.
D'accord. Donc, en totalité, le jour du dépôt de recours jusqu'à la date limite, c'est 4 mois.
Voilà. En tout, voilà. Si vous calculez comme ça, en tout et pour tout, ça fait 4 mois.
D'accord. Merci beaucoup, maître.
Merci à vous d'avoir appelé.
Merci, Sofiane, pour votre question. D'autres appels dans un instant. Vous avez une question à poser à maître Serran. Vous composez le 01-53-48-3000. 01-53-48-3000. C'est tout droit jusqu'à midi sur Beurre FM.
11h midi. C'est tout droit avec Philippe Robichon et maître Mourad Serran. 11h midi. C'est tout droit avec Philippe Robichon et maître Mourad Serran.
Maître Serran qui répond à vos questions. Je rappelle, maître Serran, que tout à l'heure, à partir de midi, nous accueillerons le chef voilà de retour de Turquie.
Ah, alors, mais Qu'est-ce que le chef voilà a été fait en Turquie?
Ah bah ça je sais pas, vous lui demanderez vous parce que vous êtes vous qui avez les moyens justement d'instruire les et de mener l'investigation.
Moi j'espère, je dis ça comme ça. Hein, mais voilà, j'espère qu'il a pas été pour se faire greffer des poils de cul sur la tête parce que souvent les gens vont là-bas pour se faire greffer des cheveux
et des dents.
Bon, et des dents.
Et des dents.
Ouais. Alors s'il se fait greffer des dents sur la tête et des cheveux au niveau du palais, ça peut être c'est un curieux chef voilà, mais
pas vous, pas vous.
Non, mais je dis ça comme ça hein.
Oui, c'est comme ça vous dites. Bien, Tao c'est avec nous, elle a composé le 0153483000, elle n'a pas peur de vous poser des questions. Taos, bienvenue.
Oui, bonjour Philippe, bonjour Maître Serrano.
Bonjour Taos.
Bonjour, j'ai une question.
Alors, pardon, c'est un prénom vietnamien, non Taos
c'est, ah, pas du tout, pas du tout.
Pas du tout.
Non,
d'accord. D'accord. Ouais. Donc, je vous écoute, Taos.
En fait, moi, j'ai entamé ma procédure de divorce depuis 2014.
Ouais.
Donc, j'ai une ordonnance de non-réconciliation.
D'accord.
Donc, jusqu'à présent, j'ai rien eu comme jugement de divorce. Mais pour la pension alimentaire, donc, ils ont fixé la pension alimentaire de 120 euros par mois. Depuis 2015, j'ai pas eu de paiement. En fait, il y a une procédure à envisager pour récupérer mais la pension alimentaire pour le petit ou pas, je ne sais pas. Je sais pas quoi faire.
Vous avez un avocat qui vous a suivi pour ce dossier, j'imagine?
Oui, j'ai un avocat.
D'accord. Donc, lorsque vous dites à l'avocat que malgré l'ordonnance de non-conciliation, pour expliquer aux auditeurs, c'est la première décision qui est rendue par le juge aux affaires familiales.
Oui.
Soit madame, soit monsieur dépose une requête en divorce et puis, lors du premier rendez-vous, il y a un échange qui se fait entre les avocats et le magistrat et le magistrat va rendre donc cette première décision, ordonnance de non-conciliation, qui prévoit ce qu'on appelle des mesures provisoires, l'attribution du domicile conjugal, la pension alimentaire éventuellement pour madame et un montant également pour le ou les enfants. Lorsque cette décision est rendue, la procédure n'est pas terminée puisqu'on va inviter ensuite l'une ou l'autre partie donc à continuer la procédure, deuxième partie, on appelle ça l'assignation devant le tribunal. Mais les mesures qui sont prises lors de la première décision, madame, vont s'appliquer. Alors, pour qu'elles puissent s'appliquer, encore faut-il qu'on ait ce qui s'appelle une signification. Est-ce que votre avocat vous a donné des détails sur ce qu'il a fait de cette décision? Est-ce qu'elle a été signifiée? Est-ce qu'elle a été envoyée par huissier à monsieur?
Oui. Exactement. Donc, oui. Expédition exécutoire.
Bon, bah exactement. Donc ça, c'est le préalable. Et à partir du moment où c'est fait, monsieur est obligatoirement tenu de régler la pension alimentaire. Il faut savoir que si dans les deux mois, il n'a pas réglé la pension alimentaire, vous avez, vous, la possibilité de poursuivre monsieur, éventuellement au pénal. C'est une procédure d'abandon de famille. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de faire des procédures de saisie. Est-ce que ça, vous en avez discuté avec votre avocat?
Non, pas du tout.
Alors ça, c'est important, c'est-à-dire que le rôle de l'avocat, madame, n'est pas seulement d'engager des procédures, c'est-à-dire que le rôle de l'avocat, c'est aussi de suivre les décisions qui ont été rendues. Parce qu'avoir une belle décision et ne pas l'exécuter, ça sert à rien. Donc, il faudrait peut-être voir ça avec mon confrère ou ma consœur, donc pour lui dire, voilà, ça a été signifié, maintenant il y a X temps, monsieur ne paye pas, concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je vous le dis, hein, c'est-à-dire que vous pouvez, sur un plan pénal, poursuivre monsieur, vous pouvez procéder à des mesures d'exécution, c'est-à-dire à des saisies salaires, à des saisies bancaires, mais il serait bon que tout ça soit fait sous le contrôle, en tout cas par votre avocat. Pour vous seul, ça risque d'être un petit peu compliqué. Si vous me dites que vous avez un avocat, il doit s'occuper de ça.
D'accord. Donc depuis 2014, il ne paye rien. Normalement, il a des mesures provisoires, donc il ne respecte pas un week-end sur deux, il ne vient pas, il ne vient jamais chercher le petit. Donc, il donne la pension alimentaire.
Bon, alors indépendamment de la pension alimentaire, si vous me dites qu'il ne vient pas chercher l'enfant, il n'y a rien qui vous interdit de revenir. Alors quand je dis vous, je parle de l'avocat, hein, mais il n'y a rien qui interdit à l'avocat de revenir éventuellement devant le magistrat pour lui demander d'en tirer les conséquences. C'est-à-dire que si monsieur, pour une raison X ou Y, ne veut pas exercer son droit, parce que c'est un droit, c'est pas une obligation. Vous voyez, c'est-à-dire que lorsque le juge, lorsque le juge dit un week-end sur deux, l'enfant peut aller voir son père. Si le père ne le fait pas, il est pas en faute. Vous voyez, puisque c'est un droit, et quand on a un droit, on l'exerce ou on l'exerce pas. Mais s'il l'exerce pas, parce que vous, ça vous bloque, parce que vous dites peut-être qu'il va venir le chercher, et puis en définitive, il vient pas le chercher. Donc, vous auriez peut-être pu faire autre chose, et à cause de monsieur, vous le faites pas. Donc, dans ce cas-là, madame, votre avocat peut demander, si monsieur ne s'intéresse pas à son enfant, à ce que vous puissiez avoir l'autorité parentale exclusive, c'est-à-dire que vous serez la seule à prendre les décisions concernant l'enfant, tout en sachant que même si le juge n'accorde pas de droit de visite et d'hébergement à monsieur, monsieur reste toujours tenu de la pension alimentaire. Voilà. Alors on appelle ça une contribution à l'entretien, à l'éducation de l'enfant. Bon, on peut plus communément on parle de pension alimentaire, mais voilà, c'est pas parce que le juge dit écoutez monsieur, vous exercez pas vos droits, tant pis, je vous laisse pas l'enfant. Monsieur reste tenu quand même de verser la pension. Voilà. Mais voilà, c'est à vous, enfin à votre avocat, mais c'est à vous de faire la démarche, hein, parce que si monsieur ne reçoit rien, il n'y a pas d'huissier qui vient lui rendre visite, spontanément, manifestement, il mettra pas la main à la poche.
D'accord. Je vais entaminer la procédure, là.
Ouais, mais encore une fois, normalement, si vous rapprochez de votre avocat, tout ce que je suis en train de vous dire, il aurait dû vous le dire, il aurait dû le faire.
Bien, en tout cas, vous avez bien fait de poser la question à Maître Serran, Taos. Toufik est avec nous, bienvenue Toufik.
Oui, bonjour Maître.
Je vous passe Maître Serran, Toufik.
Oui, bonjour Maître.
Bonjour Toufik.
Ouais, dis-moi, c'est moi docteur, si vous faites une question. Voilà, depuis 2014, au début 2014, je rentre en visa, et maintenant ça fait 2 ans que je suis en situation irrégulière. Et là, j'ai trouvé un monsieur qui va me faire des contrats de chauffeur de routier. Est-ce que c'est possible
La difficulté, c'est que pour pouvoir vous faire un contrat, il faut que vous soyez en situation régulière. C'est-à-dire que je suis le patron, vous venez voir en me disant je suis en France depuis 2 ans, j'ai pas de papier, est-ce que vous pouvez me faire un contrat? Spontanément, la société va dire non, puisque la société serait fautive. Et le patron ne peut vous faire un contrat qu'à partir du moment où vous justifiez d'être en situation régulière sur le territoire. Voilà. Mais ce que peut faire le patron de cette société, monsieur, c'est qu'il peut éventuellement vous rédiger une promesse d'embauche.
Ouais, et avec cela, on peut déposer les papiers.
Voilà, alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'une promesse d'embauche pour que les autorités préfectorales sautent au plafond en disant, monsieur, bravo, on va vous régulariser. Ouais. Mais à minima, parce que c'est sûr que si vous y allez comme ça sans rien, il est peu probable que le dossier puisse avancer. Votre situation familiale, quelle est-elle? Vous êtes célibataire? Vous êtes marié?
Célibataire.
Ouais, donc... Alors j'ai failli dire ça n'aide pas non plus, mais non, juste célibataire sans contrat, c'est injouable. Donc au minimum une promesse d'embauche. Alors une promesse d'embauche, c'est pas 3 petits mots sur une feuille blanche tachée avec du beurre ou de l'huile, hein, parce que des fois on a des promesses d'embauche qui sont un peu inquiétantes. Il faut que ce soit un courrier en tête de la société. Il faudra fournir le cabis de la société et il faudra que l'employeur précise que qu'en sa qualité de gérant de la société, il est prêt à vous prendre dès lors que vous serez régularisé pour une fonction alors déterminée. Il faudra mettre pour poste et préciser le salaire, ça c'est important, et la nature du contrat. Contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée. Donc voilà, il y a des petits éléments qu'il faut mettre sur sa promesse d'embauche pour que la préfecture puisse quand même s'y intéresser. Et un extrait cabis de la société.
Ok, d'accord,
merci.
Merci Toufik.
Allez, on a le temps d'accueillir Sadia qui nous appelle de Sevran. Bienvenue Sadia.
Oui, bonjour Maître.
Bonjour Sadia.
Bonjour, voilà, ça serait une question à propos de mon fils.
Allez-y.
Voilà, moi je suis de la société française, moi et mon mari. J'ai une fille qui est française aussi, qui vit ici en France depuis, ça fait presque 12 ans. Enfin, elle est française, elle est mariée. Mais par contre, mon fils, il est en Algérie. Est-ce qu'il a le droit d'avoir aussi sa nationalité?
Il a quel âge, votre fils? Votre fils, il a quel âge?
Il est majeur.
Non, alors il n'y a pas de... Vous, alors vous-même et monsieur, vous l'avez obtenu comment la nationalité française?
Par réintégration.
D'accord. Et à l'époque, votre fils était majeur, mineur?
Oui, il était majeur quand
ouais,
même.
Ouais, donc il peut pas, voilà, il peut pas en bénéficier de plein droit. Donc il va falloir j'allais presque dire qu'il fasse une demande, mais de naturalisation, sauf que pour faire une demande de naturalisation, il faut être sur le territoire français.
Il faut qu'il soit là.
Ouais.
Donc il faut qu'il demande visa touriste normal.
Ouais, mais alors. Je comprends ce que vous dites, sauf que visa de touriste, comme vous dites, normal, il arrive sur le territoire français par principe et par définition. Je vous attribue un visa en qualité de touriste. Le touriste, il va pas rester en France éternellement. C'est-à-dire que le visa va expirer si votre fils se maintient et si demain il dépose un dossier de cette nature, on lui dira, monsieur, vous êtes gentil, mais il y a déjà une atteinte à l'ordre public. Vous n'avez pas respecté la loi puisque la vous loi. Demandez un visa et puis vous restez sur le territoire français.
D'accord, ouais.
Donc c'est peu probable, sincèrement, qu'il puisse obtenir une réponse dans ce délai de visa, et ce d'autant plus qu'on demande à ce que ce soit un domicile, pas simplement je viens en vacances chez papa et maman, il faut que ce soit un domicile certain, il faut que son adresse soit sur le territoire français.
Voilà, c'est ça. Donc
ouais. Donc là il part pas sur avec les meilleures conditions.
Donc, il faut qu'il fasse sa demande d'Algérie, c'est ça?
Non, pour si on est en demande de une demande de naturalisation, la demande de naturalisation, il faut que notre client soit sur le territoire français. Il faut qu'il ait une adresse en France.
En France, d'accord.
Voilà. Et quand je dis une adresse en France, encore une fois, c'est pas une adresse pour les vacances.
Voilà, c'est ça. Donc.
Et ouais. Il faut qu'il soit, qu'il puisse habiter sur le territoire français. Donc c'est une condition qui permet de déposer un dossier de cette nature.
Donc il peut pas demander le.
Voilà, non. Voilà. Là, du pays, non. Et si encore une fois, s'il vient juste en qualité de touriste, on va pas le considérer comme résident en France. Il vient voir ses parents, mais après il repart. Donc il n'a pas d'adresse fixe sur le territoire français.
Et quel visa qu'il a droit de demander alors d'Algérie?
Non, mais il n'y a pas... Je comprends ce que vous dites, mais il n'y a pas un visa qui permettrait de dire, tiens, avec ce visa, il sera autorisé à demander la naturalisation. Il vient comme touriste. Ou alors il peut venir, je sais n'importe quoi, s'il a un contrat de travail, parce qu'il a des compétences particulières, donc il pourra avoir un visa pour venir bosser sur le territoire français. Mais en dehors de ça, je vous dis, il faut avoir vraiment des compétences particulières. La France donne pas des visas comme ça facilement, donc il faut qu'il puisse justifier d'une société en France qui emploierait monsieur. Si c'est pas le cas, juste un visa de touriste, c'est pas suffisant.
Bien, voilà Sadia, ce que Maître Serran peut vous dire. Vous pouvez également, si vous voulez compléter cette conversation, ou vous-même qui nous écoutez, rentrer en contact avec Maître Serran, envoyez-lui un mail, ça lui fait plaisir.
C'est vrai, donc sur maître.serran, serhane@gmail.com.
Vous l'appelez également, ça lui fait plaisir aussi.
Aussi, 06 62 58 59 64.
Et vous nous retrouvez la semaine prochaine avec Maître Serran, ça lui fait encore plus plaisir.
Tout me fait plaisir. Vous pouvez aussi envoyer des pigeons voyageurs, enfin voilà, des diligences. Enfin, tout ce que vous voulez. Voilà, je suis ouvert à toutes les possibilités.
Ah bon, on en parlera plus tard, aussi. Maître Serran. Passez un bon week-end. Dans un instant, le retour du chef voilà.
11h midi, c'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.